This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia.
France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Kenya et en Hongrie, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Le New York City Ballet est à Paris, une première depuis 8 ans. Laurent Vallière nous dira tout dans quelques instants. 18h55, l'édito d'Arnaud Leparmentier du quotidien Le Monde, consacré ce soir à la Turquie. La Turquie qui a été, vous le savez, frappée hier soir par un attentat de grande ampleur. Mais tout de suite, on parle de la Banque mondiale.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
La Banque mondiale, dont on connaît mal l'action, notamment dans les grandes crises humanitaires qui déchirent en ce moment le Moyen-Orient, cette institution intervient dans les zones de guerre, que ce soit pour aider les populations ou anticiper, alors que les conflits sont en cours, la forme et le coût de la reconstruction. C'est le cas, on le verra par exemple en Syrie et au Yémen. Bonsoir Franck Bousquet.
Bonsoir.
Je prends mon élan pour donner votre titre. Vous êtes le directeur des programmes partenariats et solutions intégrées au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale. Alors, on va y venir en détail. Mais quelques mots pour commencer sur cette banque mondiale. Ce n'est pas le FMI. Expliquez-nous quelle est votre spécialité, votre spécificité et sur quoi vous agissez.
Très bien, merci. Et bonsoir à nos auditeurs. La Banque mondiale, ce n'est pas une banque d'affaires, c'est une banque de développement. Vous avez par exemple en France des agences bilatérales telles que l'Agence française de développement. Et puis vous avez des partenaires qui sont des banques multilatérales de développement. La Banque mondiale en est un. Alors l'objectif de la Banque mondiale est très clair, c'est de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030 et également de promouvoir une prospérité partagée au profit des 40% des plus pauvres de la population dans ces pays en voie de développement. Donc que fait la Banque mondiale? C'est très simple. La Banque mondiale, elle accorde des prêts aux pays à revenus intermédiaires et aux pays à faible revenu solvable, mais elle apporte également des prêts sans intérêt aux gouvernements des pays les plus pauvres.
Et des dons aussi?
Oui, tout à fait.
Alors, je le disais, vous aidez les réfugiés, vous intervenez dans les pays en guerre, mais vous n'êtes pas non plus le Haut Commissariat aux réfugiés. Alors, quelle est la spécificité, on a parlé du FMI, mais en tout cas de la Banque mondiale par rapport à ce Haut Commissariat de l'ONU?
Eh bien, vous savez, la Banque mondiale, premièrement, travaille de manière très étroite avec les Nations unies, y compris le commissariat aux réfugiés. Lorsqu'il s'agit, par exemple, on va prendre l'exemple de la crise des réfugiés au jour d'aujourd'hui et l'impact que cela a sur le Liban et la Jordanie, vous allez avoir une action très concertée où les Nations unies s'attachent plus à la crise humanitaire et la Banque mondiale s'attache plus aux aspects de développement. Mais bien entendu, au jour d'aujourd'hui, apporter de l'éducation ou des soins à des enfants syriens réfugiés au Liban, est-ce que c'est l'humanitaire? Est-ce que c'est du développement? Vous voyez bien que c'est l'ensemble et c'est pour ça qu'on travaille de manière très étroite avec les Nations Unies.
Alors, expliquez-nous précisément ce que vous faites en Jordanie et au Liban. Vous avez cité l'éducation, là, par exemple.
Oui, très bien. Bon, d'abord, quelle est un peu la situation? Je ne sais pas si nos auditeurs sont tout à fait au courant.
Si, je pense, mais vous pouvez la redécrire.
Parce que deux, trois chiffres qui sont assez importants. On a plus de 15 millions de réfugiés au sein de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. C'est tout simplement l'une des plus graves crises de déplacement forcé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez des pays, en effet, tels que, par exemple, la Jordanie, où les citoyens syriens représentent plus de 20%. 20% de la population. Que ce soit par exemple au Liban, le nombre de réfugiés par habitant au Liban, c'est tout simplement le plus élevé au monde par rapport à la population totale. C'est-à-dire qu'on a 1 million de réfugiés sur 4,5 millions, c'est-à-dire 30%. Juste pour donner une petite idée, c'est l'équivalent de l'ensemble de la population du Mexique qui en 2 ans se déplacerait entièrement aux États-Unis. Donc voilà à peu près l'impact que la crise des réfugiés syriens a eu sur ces deux pays. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là?
C'est une crise qui dure, donc qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous financez? Quel type d'infrastructure?
Alors c'est une crise qui dure. On va financer notamment tout ce qui est la priorité, c'est à l'emploi. C'est l'un des meilleurs vecteurs d'intégration sociale des réfugiés. Notre approche est toujours double. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas uniquement d'aider les réfugiés, mais bien entendu, d'aider les populations hôtes. Au jour d'aujourd'hui, 90% de la population des réfugiés se retrouve dans le tissu urbain, ne sont pas dans des camps. Donc il est très important, ça c'est le premier point, d'avoir cette approche concertée avec les Nations Unies. Ce n'est pas que l'humanitaire, c'est aussi le développement, mais aussi le fait que l'on adresse les besoins, pas que les populations réfugiées, parce qu'elles sont totalement insérées dans le tissu urbain, donc à la fois les populations hôtes et populations réfugiées. Alors, secteur, c'est par exemple l'éducation. Au jour d'aujourd'hui, on va financer un programme de 100 millions de dollars, un programme d'éducation, Pourquoi ?
Parce que vous construisez des écoles,
alors,
c'est ça ?
Alors, c'est pas uniquement la construction, ça peut être construction physique d'écoles, mais c'est également aider à améliorer la qualité de l'enseignement, c'est également aider à mettre en place certaines réformes qui sont nécessaires afin qu'il y ait une meilleure efficacité dans ce secteur-là. Pourquoi on s'attache à l'éducation ? C'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, vous avez plus de 200 000 enfants syriens qui n'ont plus accès à l'éducation. Et malheureusement, les chiffres sont tout aussi importants côté libanais. Donc, ce que l'on fait, c'est que l'on finance des programmes d'éducation avec comme objectif pour que les enfants libanais et syriens aient accès à l'école d'ici 2017. Autre secteur, par exemple, c'est la santé. Autre secteur, c'est par exemple l'emploi. Pourquoi l'emploi ? Je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est pas uniquement l'objectif de fournir des services en eau ou en électricité, ce que l'on fait d'ailleurs aux populations réfugiées et aux populations hôtes, c'est le fait qu'ils puissent s'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'ils vont pas rester pendant un ou deux ans, cela risque de durer beaucoup plus longtemps. En moyenne, un réfugié reste.
Ouais. Ouais. Et comment vous agissez sur le marché de l'emploi ?
Alors, c'est difficile partout, hein. C'est pas uniquement difficile
évidemment, évidemment.
En Europe.
Mais comment un acteur comme vous, Franck Bousquet, peut intervenir pour stimuler, j'imagine, le marché de l'emploi et permettre à ces populations-là de travailler ?
Alors, l'acteur Franck Bousquet ne fait pas grand-chose, mais par contre, le groupement mondial essaie surtout d'aider les gouvernements à mettre en place des titres de travail, de manière très concrète, en Jordanie, à plus de 200 000 réfugiés. Voilà de manière très concrète ce qui peut être fait. Et également, essayer d'améliorer le climat des affaires pour que demain, vous puissiez avoir des investissements d'autres pays en Jordanie. Essayer également de préparer le secteur privé le jour où la guerre en Syrie sera terminée, parce qu'en effet, ça va représenter un marché dans le BTP qui sera important. Donc voilà, c'est ce support au gouvernement, ce sont les gouvernements qui sont en charge de la mise en œuvre de ces fonds, et nous les appuyons dans ces secteurs critiques qui sont tels que l'emploi.
En Irak, vous faites quoi ?
Alors en Irak, d'abord je tiens à dire que c'est un pays totalement stratégique, je n'ai pas besoin de le rappeler à nos auditeurs, c'est assez évident, et impacté par la chute du prix du pétrole, impacté par l'arrivée de plus de 250 000 réfugiés syriens, il n'y a pas que la Jordanie ou le Liban, et également impacté par le déplacement de plus de 4 millions de personnes en raison de la guerre. Donc nous apportons des aides budgétaires en Irak, il y a un besoin très important, vous avez dû le voir dans les récentes déclarations des pays du G7 au Japon, mais également on finance par exemple des projets, et ça peut être intéressant, pour aider l'État dans les zones des gouvernorats où l'armée irakienne a libéré de Daesh les centres, financer des services municipaux tels que l'eau, l'électricité, tout ça pour établir le lien entre l'État irakien et les citoyens. Donc ça, c'est très important.
Et sur le plan budgétaire, comment se passent les choses, Franck Bousquet ? C'est de l'ingénierie budgétaire, c'est-à-dire vous aidez ce pays à avoir un budget, à construire un budget, ou c'est simplement des fonds que vous lui versez ?
Non, alors il y a différents. Alors, on parle là plutôt des instruments financiers, de manière générale. Il y a plusieurs instruments financiers, ça va être un support budgétaire, mais ça peut être également des supports sur des projets très concrets où on identifie avec le gouvernement les actions qui sont à mener. Par exemple, quand je parlais des civils qui ont été libérés de Daesh, là on va travailler nos équipes en l'espace de 8 semaines. On préparait un programme de 350 millions de dollars avec les autorités irakiennes sur place pour regarder quels seraient exactement les besoins en matière d'eau et d'électricité. Donc les instruments financiers varient en fonction des conditions.
Syrie, Yémen, deux autres pays, je le disais, où vous intervenez, des pays en guerre pour le coup. Les modalités d'intervention de la Banque mondiale dans ces deux pays, ces modalités sont différentes par rapport à ce qu'on disait sur l'Irak. C'est quoi ? C'est plutôt anticiper la reconstruction, c'est ça ? Essayer de voir ce que vous pourrez faire une fois que la guerre sera terminée, ou les guerres en l'occurrence seront terminées ?
C'est exactement ça. Au jour d'aujourd'hui, pour des raisons de sécuritaire évidente, on le voit, vous pouvez le voir à la télé ou à la radio, nous n'avons pas de personnel dans ces pays-là. Par contre, ce qui est très important, c'est quoi ? C'est d'aider justement à la reconstruction. Et de manière assez unique, ce que l'on fait, c'est que l'on a mis en place, en dépit des conflits actuels, la Banque mondiale, au jour d'aujourd'hui, utilise par exemple des images satellitaires pour évaluer l'impact des conflits, afin que la communauté internationale puisse, le moment venu, c'est-à-dire lors de la fin de ces conflits, mettre en œuvre un programme de reconstruction, mais dès les premières heures de sortie du conflit, sans plus attendre 6 mois, 1 an. Parce qu'en effet, c'est là où vous avez une fenêtre de tir, et il est très important de pouvoir travailler de manière très concertée avec la communauté internationale. On fait de même en Syrie, et je tiens à dire qu'on a parlé des réfugiés, la seconde crise, c'est évident, c'est les conflits. Au jour d'aujourd'hui, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord est confrontée en effet à de graves conflits. L'intensité, la durée, mais aussi le niveau de destruction des guerres et des conflits actuels, c'est sans précédent. Juste un ou deux chiffres, le coût de reconstruction de la Syrie, déchiré par la guerre, est estimé à de l'ordre de 170 milliards de dollars. Les besoins, par exemple, en infrastructure, juste en infrastructure, de la Libye sur les 10 prochaines années sont évalués à 200 milliards de dollars. Donc ça, ce sont toutes des évaluations qui sont également effectuées par la Banque mondiale pour aider la communauté internationale à définir les besoins et pouvoir répondre à la situation.
Qui sont vos bailleurs de fonds? D'où viennent vos crédits pour ces sommes? Alors, vous ne les couvrirez pas, évidemment, dans leur totalité. Elles sont absolument colossales, la reconstruction de la Libye, de la Syrie, alors que les pays sont encore en guerre. Mais d'où viennent vos financements?
Alors, lorsqu'on parle, par exemple, de besoins tels que ceux que j'ai mentionnés, à plusieurs centaines de milliards de dollars, il va y avoir des financements des différentes banques de développement, mais également il va y avoir des actions bilatérales. Lorsque vous avez pu voir également ce qui se passe sur Gaza ou sur d'autres pays, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la communauté internationale, à travers les agences bilatérales, multilatérales, mais également à travers les pays, se rassemble pour essayer de mettre en place les fonds nécessaires.
Alors, en Afrique du Nord, il n'y a pas que des pays en guerre. Vous intervenez comment dans les pays qui, par chance, échappent précisément à la guerre?
Alors, nous avons différents piliers stratégiques d'intervention au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Dans les pays tels que par exemple le Maroc ou par exemple on va prendre la Tunisie, on va intervenir dans l'ensemble des secteurs. Alors ça peut être l'énergie, ça peut être l'eau, ça peut être l'électricité, l'éducation, la santé. Donc ça c'est une flexibilité qui est apportée au pays et on va essayer de répondre à leurs propres défis. Au jour d'aujourd'hui, si on prend l'exemple de la Tunisie, l'une des priorités par exemple du gouvernement, c'est de réduire les inégalités géographiques et d'essayer de réduire, d'apporter des investissements dans les régions désenclavées. Donc là, on va financer certaines actions, programmes prioritaires dans ces régions-là, afin de rétablir encore une fois le lien entre le citoyen et l'État. C'est quelque chose qui est très important. Améliorer la gouvernance, faire en sorte qu'il y ait plus de participation, améliorer donc la participation des citoyens aux décisions publiques. Vraiment, tous les secteurs sont couverts en fonction des besoins des pays.
Vous n'êtes pas philanthrope, vous êtes banquier, même si c'est une banque de développement. Comment déterminez-vous les pays avec lesquels vous travaillez? Passez l'urgence absolue d'une situation de guerre ou d'une situation de réfugiés. Pour le reste, comment se fait le choix?
Disons que tout dépend en fait des revenus de ces pays-là. C'est-à-dire qu'il est évident que, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, parmi les pays les plus pauvres, on va accorder des prêts, des dons ou des prêts sans intérêt avec des périodes de grâce qui sont de l'ordre de 30-35 ans. Donc on adapte les instruments financiers en fonction des conditions des pays.
Bah écoutez, merci Franck Bousquet, directeur des programmes, partenariats et solutions intégrées au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale. Merci d'être passé en studio ici à France Inter. Dans quelques instants, ce sera ailleurs dans le monde. On poursuit notre semaine Elvis Presley avec Mystery Train. Scotty Moore à la guitare. Scotty Moore décédé aujourd'hui. Son portrait dans quelques minutes avec Michael Thébault.
I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train coming round the bend. Train, train coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train coming down line. Train, train, coming down line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all, my, she's my all, my. Train coming round, round the bend, train, train coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again.
Elvis Presley sur Inter, Mystery Train, 18h33.
20 hours, 4 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, nous partons en Afrique et nous allons parler de tabac avec de plus en plus de pays du continent qui déclarent la guerre à la clope.
Et pour comprendre pourquoi Nicolas, il faut d'abord donner quelques chiffres. Entre 1990 et 2010, la consommation de tabac a en effet augmenté de 70% sur l'ensemble du continent africain et avec parfois des bonds spectaculaires, plus 220% en moins de 20 ans par exemple au Mozambique, plus 60% au Nigeria, où le nombre de fumeurs devrait encore augmenter de moitié dans les 10 prochaines années, selon les prévisions de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui tire donc la sonnette d'alarme depuis quelques années déjà. Et l'appel est visiblement entendu. Les lois anti-tabac et anti-clope se multiplient un peu partout. Souvenez-vous de la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud. Tous les sites étaient no smoking. L'année suivante, le Niger et l'île Maurice avaient adopté une législation ultra contraignante, bientôt suivie par l'Éthiopie, où la capitale, Addis Abeba, est devenue totalement non fumeuse. Et le premier pays d'Afrique à avoir ainsi déclaré la guerre au tabac, c'est le Kenya. Stricte interdiction de fumer dans les lieux publics adoptée dès 2007. Bonsoir Bruno Meyerfeld, en direct de Nairobi.
Bonsoir Michael.
Alors la législation kenyane a interdit de fumer dans quasiment tous les lieux publics, cinéma, hôpitaux, gares, aéroports, bureaux, j'en passe. Et la liste continue de s'allonger, Bruno.
Oui, tout à fait, Michael. L'autre jour, j'ai rencontré Martin. C'est un jeune producteur de films à Nairobi. Il a presque 30 ans et fume depuis l'adolescent.
Pour être honnête, je suis plutôt favorable à cette interdiction de fumer. En fait, je suis même en train d'essayer d'arrêter. Le fait qu'il y ait de nombreuses zones non-fumeurs fait que je ne me balade pas tout le temps avec un paquet de clopes. Ça m'oblige à faire attention aux autres, d'autant que si je m'en grille une où je ne devrais pas, je risque d'avoir une grosse amende.
Et oui, les amendes sont très salées au Kenya, jusqu'à 450 euros et même 6 mois de prison. La ville de Nairobi n'a installé que 12 petites zones fumeurs dans des jardins du centre-ville. Et à partir de septembre, la loi va même être renforcée. Il y aura plus d'avertissements sur les paquets, les industriels paieront une taxe qui alimentera un fonds de lutte contre le tabac. Mais surtout, comme le rappelle Monsieur Mwaka du département de la santé de la ville de Nairobi, on ne pourra plus vendre de cigarettes à l'unité.
Avec la nouvelle loi, on va pouvoir réguler et contrôler la production, la transformation, la consommation et même la publicité de la cigarette. Par exemple, un des problèmes au Kenya, c'est que les cigarettes sont souvent vendues à l'unité, beaucoup moins chères. Même les écoliers peuvent s'en payer une. Avec la nouvelle loi, cela sera totalement interdit. Les plus jeunes n'auront pas les moyens d'acheter un paquet qui coûte en moyenne 150 shillings kenyans, un peu plus d'un euro. Selon notre constitution, le gouvernement doit protéger chaque citoyen kenyan. Un individu n'a pas le droit de faire le choix d'être en mauvaise santé, ça non.
Bon alors voilà, la santé publique hein, comme priorité, mais cela n'empêche évidemment pas les résistances, Bruno.
Oui, Michael, la British American Tobacco BAT, l'un des plus importants producteurs de tabac au monde, a mené une véritable guérilla judiciaire contre la nouvelle loi, en vain, car la justice a finalement donné raison au gouvernement. Il faut dire que le secteur de la cigarette pèse lourd au Kenya. 20 000 fermiers cultivent le tabac dans le pays et BAT affirme payer quelques 130 millions d'euros d'impôts par an à l'État kényan.
Mais le tabac est-il pour autant, Bruno, le principal problème de santé publique au Kenya ?
Pas vraiment, Michael. Beaucoup doutent en fait que ce soit une priorité. Parmi eux, il y a le docteur Yvonne Olwang de l'hôpital Aga Khan de Nairobi.
Honnêtement, il serait vraiment très difficile de faire un bilan aujourd'hui. Je n'ai entendu parler d'aucune étude ou de sondage qui aurait été fait depuis que l'interdiction de fumer a été mise en place. Je serais incapable de vous dire si le nombre de cancers ou de décès a diminué. Dans tous les cas, je ne pense pas que le tabagisme soit le principal problème du Kenya en termes de santé publique. Les problèmes les plus essentiels sont liés à la pauvreté, comme le paludisme ou les maladies gastro-intestinales. Dans les quartiers pauvres de Nairobi, la pollution n'est pas du tout contrôlée et a des conséquences graves aussi sur la santé.
Le docteur n'a pas tort, la cigarette tue 6 000 Kenyans par an, c'est vrai, mais c'est presque 10 fois moins qu'en Espagne, qui a une population comparable, autour de 45 millions d'habitants, et surtout c'est 4 fois moins que le paludisme, qui tue encore 20 000 personnes chaque année. Au Kenya.
Et Bruno Meyerfeld, correspondant de France Inter à Nairobi, merci beaucoup. Je redonne le montant de l'amende pour une clope dans un lieu public à Nairobi, 450 euros et jusqu'à 6 ans de prison si récidive.
Et direction maintenant la Hongrie, Michael, où le gouvernement Orban suscite une fois encore la polémique.
Oui, on vous en parle souvent, hein, ici même, cette multiplication de décisions et de lois pour le moins autoritaires. Il y a d'abord eu, souvenez-vous, la mainmise sur les institutions, puis sur les médias publics, la justice, l'école, notamment avec les programmes d'histoire largement révisés. Et voici à présent les grands projets culturels de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois a décidé de construire plusieurs grands musées dans l'un des plus beaux parcs de Budapest, appelé Bois de Ville, lieu hautement historique. Interrogé sur le projet, 75% des Budapestois ont dit non, mais les travaux ont déjà commencé. Édifices rasés, arbres arrachés. Bonsoir Florence Labruyère, en direct de Budapest.
Bonsoir Michael.
Alors à l'appel d'une dizaine d'ONG, hein, les militants écologistes, mais pas seulement, étaient déjà descendus dans la rue hier contre le projet et ils recommencent ce soir.
Oui, malgré le petit nombre de manifestants hier, entre 100 et 200 personnes, des militants écolos ou des habitants du quartier, la police anti-émeute est intervenue de manière musclée. Il y a eu plusieurs blessés. La conseillère municipale d'opposition, Rebecca Szabó, a été interpellée, ainsi que le chanteur hongrois, Gergely Komáromi.
Et quel est précisément le cœur du problème ?
Premier problème, à cause de ce méga-projet, 600 arbres du parc vont disparaître. Alors j'ai rencontré Gergely Csák, qui veut sauver ces arbres. Il a 35 ans, il est rédacteur d'un journal pour enfants et il est aussi professeur de yoga.
En anglais, notre mouvement s'appelle Occupy City Park. On essaye d'occuper le City Park depuis 3 mois, oui.
Vous êtes installé où alors dans le parc ?
Il y avait une barre dans le centre du parc, ça s'appelait Kertem, notre jardin. Et maintenant, on habite là.
Il y a même des gens qui dorment là toute la nuit?
Oui, oui, il y a même des gens qui protègent les arbres comme ça, qui dorment là et qui habitent complètement là depuis 3 mois.
Voilà, Occupy City Park. Et que prévoit exactement ce grand projet gouvernemental, Florence?
Eh bien, le plan du gouvernement, c'est de créer un quartier qui regroupera tous les musées, comme à Vienne, pour attirer plus de touristes. À l'heure actuelle, la Galerie Nationale, par exemple, qui abrite les peintres hongrois, se trouve dans le château de Budapest. Or, le château, c'est un vieux bâtiment où les tableaux sont vraiment mal éclairés et pas très bien mis en valeur. Alors, effectivement, pourquoi pas construire de nouveaux musées modernes. Mais il y a autre chose derrière ce projet. Une fois que les musées seront partis du château, le Premier ministre Viktor Orban veut y installer ses bureaux. Et le château, c'est là où était le gouvernement autoritaire dans les années 30. C'est donc tout un symbole. Et puis, il y a aussi le fait que ce grand chantier très coûteux profite surtout aux entrepreneurs et aux oligarques proches d'Orban. Alors, les manifestants protestent aussi contre cette corruption, comme le dit Gergely Csák.
On pense que c'est un gouvernement dictatorial. Il n'écoute pas notre voix. Un gouvernement corrompu. On peut lire dans le journal chaque jour qu'est-ce qu'ils font. c'est vraiment ouvert qu'est-ce qu'ils font, c'est la corruption.
Le bois de ville est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Alors Occupy City Park espère que l'UNESCO va réagir. Et puis même si les militants ne sont pas très nombreux sur le terrain, notons quand même que 75% des Budapestois sont opposés à ce projet de quartier de musée.
Florence Labruyère, correspondante d'Inter à Budapest, merci. Et ajoutons qu'à son arrivée au pouvoir en 2010, Orban avait purement et simplement supprimé le ministère de l'Environnement, supprimé aussi l'Office des Monuments Historiques, c'est pratique. Quant à son futur bureau au château de Budapest, eh bien les travaux ont là aussi déjà commencé. Le chef du gouvernement s'installe dans un ancien couvent des Carmélites du XVIIIe siècle, au cœur du château. Et en ce moment même, les ouvriers, tenez-vous bien, sont en train d'ajouter un balcon de 100 mètres de long sur la façade. Édifice évidemment défiguré, mais Orban n'en a cure. Enfin Nicolas, vous l'avez annoncé il y a quelques minutes aux États-Unis, cette légende du rock'n'roll qui s'est éteinte, Scotty Moore, est mort la nuit dernière dans sa maison de Nashville. Il avait 85 ans, guitariste de génie, entré au Panthéon pour avoir en quelque sorte révélé le King Elvis Presley. On est en 1953. Scotty Moore est alors modestement connu comme guitariste de jazz et de music country. Il enregistre plusieurs disques sans grand succès, faut bien le dire. Mais tout cela se passe en un lieu qui va devenir mythique, le Sun Studios, où un beau matin entre un adolescent au favori noir, comme le dira Scotty des années plus tard. L'ado enregistre My Happiness, reprise d'un titre de 1948. Pas vraiment flamboyant, le patron du studio écrit même ce petit mot sur la galette. Bon chanteur de ballade à suivre. Mais Scotty Moore, lui, est sous le charme. Et il manque un chanteur à son groupe nommé Starlight Wranglers, sous contrat avec Sun Records. Car cela fait des mois qu'il recherche, je cite, « un chanteur blanc qui chanterait comme un noir et le rendrait millionnaire ». Eh bien, il vient de le trouver. Premier enregistrement commun le 4 juillet 1954. La carrière d'Elvis Presley est lancée. Les deux hommes ne se quitteront plus pendant des années. Scotty sera le guitariste d'Elvis. Comme ici, automne 54. That's all right. À demain, Nicolas.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right. That's all right, mama, any way you do. Well, mama, she done told me, papa done told me too. Son, that gal you foolin' wish she ain't no good to you. But that's all right, that's all right. That's all right, mama, anyway do. That's all right. That's all right, mama, any way you do.
Allez, parce qu'on aime Elvis et qu'on veut encore rendre hommage à Scotty Moore, cet autre immense classique, Hound Dog.
You ain't nothing but a hound dog. Nothing but a house.
Elvis Presley et Scotty Moore à la guitare. Hound Dog, il est 18h48.
Hey, wake up!
No!
Un jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God!
Sur France Inter.
Et c'est l'une des compagnies de danse les plus réputées au monde, le New York City Ballet, et ses 96 danseurs s'installent à Paris. Pour la première fois depuis 8 ans, au programme 20 ballets à découvrir jusqu'au 16 juillet au Théâtre du Châtelet. Laurent Vallière, ce vénard, s'est rendu à New York et a pu assister aux répétitions.
Lincoln Center, à deux pas de Central Park, le cœur artistique de New York. Au fond, le Metropolitan Opera et à gauche, un building moderne, la maison du New York City Ballet.
Voilà.
À l'intérieur, on est dans une salle borgne, notamment, de 10 mètres sur 10 avec des miroirs tout autour. Chaque 30 minutes, un nouveau duo vient présenter son travail au maître de ballet, Jean-Pierre Frelich. C'est l'un des gardiens du temple, il connaît les pas de chaque chorégraphie, même la plus ancienne.
Dans mes notes, j'ai tout le ballet, avec la musique, avec les contes. Et de temps en temps, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est mon Bible. Grand jeté, c'est des lettres, oui. Et des croix pour les gens, pour les danseurs.
Now watch this one. Watch this.
Really move it on,
watch
man.
This. See how pretty that is?
Yeah.
How she starts here.
Yeah.
Les répétitions sont intensives au New York City Ballet. Même si on est en représentation la veille, il faut être présent dès 10h30 le lendemain matin. Le New York City Ballet est une compagnie à part, la plus vue de la scène américaine, qui doit tout, non à des subventions, mais à un mécène, qui en 1948, à l'américaine, fonde la compagnie et fait appel au maître de ballet russe George Balanchine. Balanchine s'imprègne de l'énergie de New York et donne une identité forte à cette compagnie, que résume Jean-Pierre Frelich.
C'est M. Balanchine, de temps en temps, dit « Vous êtes jeune, danse grand ». Tu ouvres le corps quand tu fais des choses. C'est ouvert, c'est plus stretch, un long mouvement. C'est pas petit. C'est juste grand et avec l'énergie et joie de vivre.
Parmi les anciens danseurs phares du New York City Ballet, Benjamin Millepied est certainement le plus célèbre de France. À Paris, ils seront 96 pour 20 représentations, dont Robert Fairchild.
I've got fidgety feet, fidgety feet, fidgety feet.
Rappelez-vous, il incarnait au Châtelet et à Broadway il y a 2 ans le rôle de Gene Kelly dans la comédie musicale Un Américain à Paris. Après 3 années à l'école du New York City Ballet, Robert Fairchild a gravi un à un les échelons jusqu'à devenir danseur étoile. À Paris, il chantera encore un peu dans une suite autour de la musique de West Side Story.
Boy, boy, crazy boy, get cool boy, in cool.
Le moment le plus complexe dans West Side Story, c'est dans le ballet Cool. Il y a un pas où, en gros, je dois exécuter une pirouette à genoux. C'est compliqué. Et en plus, on est en basket, en jean. Ce ne sont pas franchement les vêtements idéaux. C'est donc un moment risqué. On sait comment faire une pirouette debout, mais sur les genoux. Et en plus, on fait cela complètement à l'unisson avec 8 autres danseurs. Donc si vous ratez, ça se voit. Pour Robert Fairchild, danseur étoile au New York City Ballet, c'est clair, il y a dans cette compagnie une énergie particulière.
How can I move faster?
Comment est-ce que je peux bouger plus vite, voyager plus loin, sauter plus haut, tourner plus? Il s'agit de repousser les limites, non pas que les autres styles dans les autres compagnies de danse ne le font pas, mais une des caractéristiques du New York City Ballet, c'est que nous bougeons vite. Vous pourrez entendre différents enregistrements d'orchestres qui jouent le Lac des Cygnes. Le nôtre est probablement le plus rapide. C'est ni bon ni mauvais, c'est juste différent. C'est ce qui nous rend uniques.
There's a sort of jazziness.
Et puis il y a un côté jazzy dans la vision du ballet de George Balanchine. Au Châtelet, on pourra voir 17 ballets créés par George Balanchine, la suite autour des musiques de West Side Story, chorégraphiée par Jérôme Robbins, qui fut directeur artistique adjoint de la compagnie, mais aussi des créations plus contemporaines. Ils sont à Paris jusqu'au 16 juillet.
Where are we meeting?
Laurent Vallière dans les coulisses et les répétitions du New York City Ballet. 18h53 dans quelques instants, l'édito d'Arnaud Le Parmentier.
Said you never know. While I try my best, hey, to cover our eyes, it's a common way to blame and hide the truth. I know that some will say it matters a little bit. Oh, but come on and mean it to me. I need it so bad.
Et à 18h56 sur Inter, on file en Turquie.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Bonsoir Arnaud Le Parmentier.
Bonsoir Nicolas.
Édito sur la Turquie, donc la Turquie frappée une fois de plus hier soir par le terrorisme.
Oui, mais derrière l'horreur, derrière les 41 morts et les 239 blessés, victimes de l'attentat de l'aéroport d'Istanbul et perpétrés sans doute par l'État islamique, il y a peut-être un espoir politique. Il ne sert plus à grand chose d'accuser la Turquie d'avoir eu ses sympathies coupables avec l'État islamique, de lui avoir servi de base arrière et d'en être aujourd'hui victime. Depuis un an, les attentats ont fait plus de 200 morts à Ankara et Istanbul. Mais l'espoir, c'est de voir le président Erdogan mettre enfin un terme à son cavalier seul et à sa dérive autoritaire. Revenons au début de son règne. Dans les années 2000, le leader turc avait pour objectif d'avoir, citation, « zéro problème avec les voisins ». Tout était harmonieux, des relations apaisées et prometteuses avec la Grèce et l'Europe, un dialogue privilégié avec Israël, une destination pour les touristes russes, des progrès avec l'Arménie et lors des printemps arabes, Erdogan voulait être l'exemple pour les nations musulmanes, le phare avancé qui montrait qu'islam, démocratie et développement pouvaient aller de pair. Las, Erdogan a fait une dérive autoritaire et s'est brouillé avec tous, avec les Européens qui ne veulent plus de la Turquie, les Israéliens qui ont pris d'assaut une flottille turque qui cherchait à briser l'embargo maritime sur Gaza. Il s'est aussi brouillé avec le maréchal président égyptien Sisi, accusé d'avoir renversé le frère musulman Morsi, avec Bachar el-Assad, son ancien allié, qui a écraser les sunnites. Et enfin, Erdogan s'est brouillé avec Vladimir Poutine en abattant un avion russe accusé d'avoir pénétré l'espace aérien turc à l'automne dernier. N'en jetez plus, Erdogan n'était entouré que d'ennemis et cela devenait intenable.
Première étape de la réconciliation donc, Arnaud, Israël.
Oui, donc on le rappelle, en 90, un commando israélien prend d'assaut une flottille turque pro-palestinienne qui cherche à briser l'embargo maritime sur Gaza imposé par Israël. L'affaire fait 10 morts. Eh bien, lundi, les deux pays ont scellé enfin leur réconciliation. Ils devraient nommer prochainement des ambassadeurs. De l'aide turque pour les Palestiniens sera acheminée via le port d'Ashdod, même si l'embargo reste maintenu sur Gaza. Maritime, j'entends. L'affaire devrait permettre le développement des relations économiques des deux pays, notamment dans le domaine gazier.
Deuxième étape de la réconciliation, Poutine.
Poutine, oui, et c'est aujourd'hui. Les présidents Erdogan et Poutine se sont parlé au téléphone. Le président turc avait en début de semaine exprimé ses regrets pour le pilote russe abattu, des dédommagements pour être versés avec sa famille. Et Poutine et Erdogan ont convenu de se rencontrer prochainement. Surtout, Poutine a immédiatement décrété qu'il levait les restrictions sur les voyages touristiques des Russes en Turquie. Cette activité est décisive pour l'économie turque. Le nombre de touristes russes est divisé par 10 en un an. Le nombre total de touristes étrangers d'un tiers en raison de la peur des attentats. Et cette réconciliation est surtout un moyen de tempérer la guerre interposée que se livrent en Syrie les deux puissances. Moscou, on le sait, soutient Bachar el-Assad, tandis qu'Erdogan le combat. Ajoutons-y la détente avec l'Égypte et l'on peut espérer que la Turquie, convertie à la réalpolitik, devienne un peu plus raisonnable. Reste à vérifier que les Turcs continueront d'honorer leurs engagements envers les Occidentaux, notamment en gardant les réfugiés syriens sur leur sol. On y verra un peu plus clair au sommet de l'OTAN la semaine prochaine.
Arnaud Le Parmentier du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne sur la pollution de l'air, responsable selon les derniers chiffres disponibles de la mort de 48 000 personnes par an en France. C'est considérable. Peut-on respirer sans craindre pour notre santé? C'est le thème ce soir de notre débat. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr et Twitter. Le journal est à suivre.